La tête à l'envers, Marlène Métraillé.
Bonjour à tous, bienvenue. Ce midi, vous avez rendez-vous avec Basile Dacugna, réalisateur en devenir. Basile Dacugna, son franc-parler, sa fougue toute juvénile, largement de quoi vous mettre la tête à l'envers.
Moi, je peux directement attaquer mon boulot, parce qu'en plus j'avais des trucs à faire, hein, parce que c'est bien joli cette émission, mais moi je dois travailler aussi. Hein. Alors, moi j'en étais ici, j'en étais à cette scène-là, qui est une scène de groupe, comme on a l'habitude d'en faire là, dans mes films, et ça, il y a des leitmotifs récurrents dans ce film, ça parle beaucoup de la mort. C'est un film qui se passe de nuit et ça s'ouvre sur un dialogue sur des morts-nés. Et tout au long du film, on a des espèces d'interludes qui vont contre la narration du film et qui évoquent ces questions-là. Ça, c'est une histoire géniale qui raconte sur un type qui s'est fait tirer dessus le jour de son enterrement. Donc il est mort deux fois. Et évidemment, personne ne le croit parce que le type divague pas mal quand il raconte ses histoires. Donc voilà, quoi. Tout le monde se fout de sa gueule. Il dit, bon, arrête de baratiner comment un type meurt deux fois, etc. Et là, le type commence à expliquer. Non, il est mort deux fois parce que le jour de son enterrement, à côté de la favela, il y a eu une fusillade et il a ramassé une balle perdue. On est à un moment donné où on essaye un peu de foutre de l'ordre dans ce groupe, mais c'est toujours le bordel avec ces gars. Ah voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial parce que par exemple, là il y a un type qui jette des cailloux sur celui qui parle. Ça c'était pas prévu, normalement il devait lui jeter des pipasses quoi, mais au bout d'un moment j'ai vu que les pipasses ça faisait pas d'effet. Donc je lui ai demandé de jeter des cailloux pour voir si on pouvait provoquer des réactions un peu plus drôles quoi. Voilà, là il commence à s'énerver, là voilà quoi. Là il s'émoustille un tout petit peu. Et là il lui dit, bon, arrête de me jeter des pierres, sinon je vais m'énerver, et voilà quoi. Il prend des briques et lui jette dessus, moi j'adore cette scène. C'est bien parce que là il s'énerve vraiment en plus. Hein.
Et ça c'était pas dans le scénario.
Non, les meilleures scènes c'est toujours celles que j'ai pas écrites, étrangement. Pourtant je suis sûr que j'écris très bien, mais ce qu'ils ont à me donner c'est toujours mieux. Les dialogues, franchement, hein, moi, sans fausse modestie ou quoi, hein, moi j'écris très très bien les dialogues. Mais franchement, ces gars-là, ce qu'ils inventent, c'est toujours mieux que tout ce que je pourrais écrire.
Basile Dacugna, bonjour.
Bonjour.
Alors, je viens vous surprendre là dans votre grotte.
Voilà.
On est à Renan, pas très loin de la gare. C'est là que vous travaillez.
Voilà, c'est là que je travaille, c'est là que je fais le montage de mes films, dans cette grotte.
Et là, justement, je vous surprends en plein montage de votre prochain film, premier long métrage.
Ouais, exactement.
Et c'est un film que vous avez tourné, comme la plupart des derniers cours, au Portugal, dans un ghetto très particulier, où vous vous sentez un peu comme un poisson dans l'eau.
Exactement. Bah, c'est déjà, avant tout, des films que je fais avec des amis. Donc, c'est des films qui sont très familiaux, quoi. C'est avec les gens avec qui je partage ma vie et qui participent, quoi, à tout le processus de création du film, que ce soit à l'écriture, au tournage, un peu moins en montage, quoi, parce que du coup, je suis plus là-bas quand je le fais. Mais voilà, quoi, indirectement aussi à travers les musiques qu'ils m'envoient et les idées, etc., quoi. Donc, c'est vraiment une sorte de travail collectif, quoi, qu'on fait dans ce quartier avec ses amis, quoi.
Et ça, déjà les deux précédents courts-métrages qui ont quand même été sélectionnés à Cannes, c'est pas banal.
Ouais. Donc on a commencé avec les bras cassés du quartier, qui sont mes amis. Hein. C'est un vrai groupe de pieds nickelés, quoi. Et y a un type qui fait un peu de musique, hein, qui fout rien. un autre qui est peintre en bâtiment ou plâtrier, je ne sais plus très bien ce qu'il fait. Mais on a commencé comme ça, parce qu'on n'avait pas eu les financements d'un court-métrage qu'on voulait réaliser. Et on s'est dit, bon, on a une caméra, on a du son, on va quand même essayer de faire un truc. Et on a trouvé un peu de sous, juste peut-être pour avoir de quoi manger quoi, et boire pendant le tournage. Et on a commencé. Et j'avais pris justement le peintre en bâtiment comme acteur principal. Parce que bon, première scène du film, le gars, il doit se cacher sous un lit. Il rentre chez un dealer et tout, il se cache sous un lit. Et on commençait à tourner cette scène, et à chaque fois on se rendait compte que, voilà quoi, le gars arrivait, se cachait sous le lit, on se disait, putain, il se passe rien, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je vois, je me baissais pour regarder, le type s'était endormi entre-temps, parce qu'il était tout le temps sous. Donc, moi, au début, j'essayais de résister un peu, je voulais aller au bout de mon idée, je voulais vraiment prendre le fou du village pour tourner ce film et tout, mais bon, comme le gars arrivait jamais à se relever, je devais le porter, me cacher, ça devenait une sorte de marionnette que je devais, voilà, un peu... Diriger comme ça, c'était impossible. J'étais chercher un autre fou du village, qui est Nouvem, qui a donné d'ailleurs le titre au film après coup, qui était une autre tare, mais voilà, quoi, dans un autre style.
Et Nouvem, ça veut dire quelque chose en français.
C'est nuage, c'est son nom. Et c'était un type, j'avais pensé à lui, parce qu'un soir, vers 3h du matin, j'étais assis dans un coin et tout, et puis bon, je le vois, et j'avais une sorte de... comme un plan fixe quoi devant moi, il faisait des entrées et des sorties de champ, il me racontait des histoires et après il est parti, voilà, comme un nuage quoi. Le gars est arrivé, je le connaissais pas, il m'a raconté des histoires, il est reparti et il était resté comme ça dans mon esprit. Et comme j'ai vu que ça marchait pas avec mon peintre en bâtiment là, je me suis dit bon, on va aller voir Nuage et on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Bon, on a discuté 5 minutes, je lui ai dit bon, est-ce que t'as envie de faire un film? Le gars me dit ouais, donc on est parti tourner tout de suite après. Et on a commencé à tourner comme ça sur 3 mois, ce qui est énorme pour un court-métrage. Et bon, c'était tourné de manière très dissolue, quoi, parce que c'était la première fois qu'on tournait là-bas. Et voilà, on apprenait à se connaître aussi avec les gens, parce qu'on a créé tout un groupe de travail. C'est pas comme si on arrivait avec toute l'industrie cinématographique, avec le système de production classique du cinéma, avec des horaires, avec une équipe, etc. Quoi. L'équipe, c'était un gars qui prenait le son, moi à la caméra, et le reste, c'était mes amis. Voilà. Donc on a commencé à tourner comme ça. Et voilà, il y a des gens qui nous regardaient de manière un peu étrange. Qu'est-ce qu'ils foutent ces gars quoi, c'est, voilà. Ils ont vu le film et je pense que ça a touché pas mal de gens. Le deuxième, on a déjà d'autres personnes qui ont intégré l'équipe. Et pour le long métrage, on avait tout le quartier. Ça, c'était génial. C'était génial parce que du coup, les gars qui avaient commencé avec nous, c'est devenu des complices de mise en scène à l'intérieur même des scènes. C'est-à-dire que vu qu'on travaille... dans l'improvisation, il y a un scénario, il y a des dialogues écrits, mais on ne les prend pas sur le tournage. On respecte surtout la vie et ce qui se passe devant nous. Donc, en partant du principe qu'on jette à la poubelle ce scénario, qu'on décide de ne pas se prendre pour Dieu et de ne pas manipuler complètement cette réalité, mais juste de la rencontrer et voilà, de travailler avec elle, ce qu'on a fait, c'est que petit à petit, on a développé une méthode de travail. Et les gens qui étaient là au début sont déjà des complices de mise en scène à l'intérieur même du film, comme par exemple Rabah Merzaimeché, c'est un réalisateur français-algérien qui a tourné des films incroyables comme Le Dernier Maquis ou comment il s'appelle son dernier film, il est absolument magnifique. Peu importe, il a toujours le rôle principal. Pourquoi est-ce qu'il a le rôle principal de ce film? Parce qu'il met en scène de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va provoquer des choses dans ses scènes, comme Piala a pu le faire aussi dans ses films, où il intégrait la mise en scène pour pouvoir aller chercher certaines choses. Là, moi j'ai la chance d'avoir des gens qui ont compris des petites parties de ce que c'est que faire un film et qui mettent en scène de l'intérieur. Comme ce type-là, par exemple. Là, j'ai un exemple sous les yeux, absolument génial. Ce type-là qu'on voit là, avec des cheveux et sa casquette. Lui, il est là depuis le début. Et c'est donc un type qui sait assez rapidement, il comprend ce qu'on va avoir besoin de tirer d'une scène. Et donc c'est lui qui va alimenter par exemple la conversation avec celui qui raconte l'histoire du type qui est mort 2 fois. Mais ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de glissement ou des frictions parce que les gens comprennent pas ce qu'il raconte, donc lui il va s'énerver. Comment on en arrive à ça? Comment on arrive à créer cette espèce de chaos qui révèle beaucoup de choses sur les personnages? C'est justement grâce à un type comme celui qui intervient là. C'est-à-dire que moi je demande à Chix, celui qui raconte sa blague, là, son histoire, de la raconter. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a une série de personnes qui vont l'empêcher de raconter cette histoire. Mes complices, justement, qui vont l'interrompre, qui vont lui poser des questions, qui vont remettre en cause ce qu'il dit, ce qui va l'énerver. Et voilà comment on en arrive justement à une scène qui dégénère complètement.
Qui était le but recherché?
Ouais, le but, c'est quand même de... Parce que le cinéma, c'est quand même un truc où on peut voir les... Moi, je crois pas trop à un cinéma du réel, parce que ça, c'est quand même de la fiction. Il y a une réalité qui est mise en scène à travers un dispositif, à travers un regard, à travers... voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que le cinéma, c'est quand même un truc où on peut voir des émotions. Et ces émotions, c'est une vérité. Et moi, c'est cette vérité-là que je cherche. Là, ce qu'on voit là, c'est des émotions qui sont réelles.
Parce que c'est... aucun de ces personnages n'est acteur, évidemment. Il joue son propre rôle.
Plus ou moins son propre rôle. Après, il y en a qui ont quand même une distance par rapport à... aux personnages qu'il représente. Chacun a un lien très, quand même, intime à ce qu'il fait. Et est là, pour des raisons différentes. Je pense à lui, le chef de bande, il sait pas trop pourquoi il est là, ça voilà, il y en a d'autres qui viennent parce que ils ont envie de gagner 20 €, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont envie de m'aider, il y en a ils viennent parce qu'ils ont envie de laisser une trace, tout simplement. Il y a pas un intérêt général quoi, il y a des intérêts complètement particuliers et différents, mais on en arrive quand même à faire quelque chose ensemble.
Et à tel point que par exemple, le dernier court-métrage tourné là-bas s'appelle
Où je vive justement choro, mais ça c'est le titre en portugais en l'occurrence. Il y a des parties en portugais, des parties en créole. Le dernier, c'était un mélange comme ça de la culture portugaise, de la culture créole. Et, enfin, c'est pas ça le film, mais disons qu'on a travaillé avec le quartier et on a aussi été rencontrer d'autres gens. On a travaillé dans les docks de Lisbonne avec les ouvriers, les dockers. Et on a fait un truc ensemble, quoi.
Et ce film, confectionné avec la même méthode, hein, cette ouais. méthode d'immersion, de pseudo-complicité, d'histoire racontée en commun, il a bien fait sa route. Hein. Il a été primé récemment à Winterthur.
Voilà, il a gagné le prix du cinéma suisse et il venait de gagner le prix du cinéma portugais. Donc ça, c'est assez drôle. C'était aussi le cas du précédent qui avait gagné un prix suisse, je sais plus quoi, puis un autre prix portugais, genre meilleur film portugais.
Que aí você para fora, uma moça.
Preciso que fique quieto para me dar atenção.
Quer sair daqui?
O senhor está a ouvir-me?
Eu estou a ouvir.
Quieto e calado.
Eu estou a ouvir.
Preciso que fique quieto, o senhor está desidratado, está a ouvir-me?
Me disseram que eu tinha problema de ouvido. Nunca ouvi o que era preciso. Eu é que ouço o que quero. Eu é que decido.
Senhor, preciso que fique quieto, está a ouvir.
Que estranha forma de vida, tem este meu coração. Viva de vida perdida, quem me daria o condão? Que estranha forme de vida.
Et ça, là, avec tout ce qu'on vient de dire, avec ce récit d'un tournage, d'un montage et d'une façon de travailler, c'est un peu la patte Basile d'Acugna.
Ben, en tout cas, c'est moi ce que j'essayais de dire sur l'émotion, c'est que c'est un cinéma qui est assez parce que souvent le cinéma, quand même, aujourd'hui, le cinéma a perdu un peu de son innocence. Et nous, je trouve que justement, on a un cinéma qui est très naïf. On ne compose pas avec les règles ni de l'industrie du cinéma. Je crois qu'on n'appartient à aucune chapelle, à aucun milieu. On fait les choses de manière très, très libre. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est cette liberté qu'on a. Et on travaille comme des artisans. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus. Il n'y a pas de hiérarchie, on travaille ensemble et avec cette liberté-là.
D'ailleurs, c'est frappant parce que quand vous parlez de vos films, vous dites jamais « je », jamais « mes films », mais « nos »,« on ». C'est vraiment un travail collectif.
C'est complètement un travail collectif. Qu'est-ce qui nourrit un film au-delà des fantasmes et des désirs et des espoirs qu'on peut avoir, qu'on met dans un film et qui viennent de l'intime quand même? On est nourri par quoi? Par les gens qui sont autour de nous. on part quand même d'une certaine vérité des gens. Disons simplement qu'on ne fait pas une démonstration de force.
Ou de savoir-faire.
Ou de savoir-faire, exactement. On n'est pas dans l'exercice de style, on n'est pas dans la démonstration de force, on est dans des choses beaucoup plus simples. Pourquoi ? Ce n'est pas un truc qu'on revendique, c'est juste un truc auquel on croit. Parce que moi, je ne crois pas à la plupart des choses que je vois dans les salles de cinéma. J'y crois vraiment pas. Je vois ou un type qui a écrit un super scénario, ou des acteurs qui sont techniquement très doués, mais j'arrive pas à ressentir ces émotions que moi je cherche dans nos films. Mais, ça je le dis pourquoi ? Je le dis parce que on peut le voir d'une façon très simple. Qu'est-ce qui nous reste d'un film ? C'est la mémoire. Est-ce qu'il y a des images qui restent ? Ou pas ? Moi, la plupart du temps, je ne garde rien. Je vois des films qui fabriquent de l'oubli, comme la télé en a longtemps fabriqué, de l'oubli. Et moi, je pense qu'il y a des cinémas où on touche à une certaine vérité et ils arrivent à rester avec nous un petit moment. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Hein. Moi, je vous dis ce qui me touche.
Ce qui est frappant, Basile Dacunha, quand je vous écoute, c'est que vous parlez de ce cinéma naïf, vrai, qui est lié à votre âge, hein. Vous avez à peine 27 ans. Mais quand on écoute, je me demande où vous avez puisé cette maturité, parce qu'il y a peu d'hommes ou de jeunes de 27 ans qui ont des idées aussi arrêtées sur ce qu'ils attendent.
Moi, j'appelle ça la foi. Moi, je crois pas tellement à la politique. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas, mais je crois beaucoup à l'art. Et j'ai une vraie foi en cette vérité qu'on recherche. Et ça ne vient pas de longues réflexions, ça ne vient pas des bouquins. Ça vient, c'est un truc organique, c'est de l'intérieur. C'est des choses que n'importe qui peut sentir. Moi, je pense que les gens, quand ils regardent des films, ils n'ont pas besoin d'être des critiques de cinéma pour sentir les choses. Moi, au contraire, je crois fondamentalement que cette vérité-là, tout le monde peut la sentir et moi, c'est à ça que je crois. C'est cette liberté qui nous permet de toucher à cette vérité des gens.
Et le fait qu'il y ait une certaine précocité pour être aussi construit que vous l'êtes.
Non, mais la précocité, c'est complètement relatif, hein, parce que j'ai quand même toujours du mal à ranger mes chaussettes, à faire la vaisselle. Donc voilà, moi j'appellerais plutôt ça un déséquilibre. Il y a des trucs qui arrivent un petit peu avant, d'autres qui arrivent un petit peu après. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'on se construit. Et des fois il y a des déséquilibres, des frictions, des choses où finalement on ne fait pas les choses au bon moment, voilà, on a un petit temps de retard, un petit temps d'avance. Et c'est ce qui fait que des fois, voilà, il y a un truc qui se passe. Non, moi je ne pense pas qu'il s'agisse de précocité. Après, précocité, voilà. Moi je fais des films quand même depuis l'âge de 10 ans. Quoi. Mon père un jour a acheté une caméra, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai commencé à faire des films là, à fabriquer des images. J'ai eu cette chance-là, parce que moi, je suis de cette génération quand même du numérique, où ça ne coûte rien de faire des films. J'ai pu tourner des images depuis le moment où on m'a donné une caméra. J'ai pu fabriquer des images, raconter des histoires avec mes amis en Suisse, avec mes amis au Portugal, avec ma famille. J'ai pu faire énormément de choses. Et j'ai pas eu à les imaginer, à me les représenter, à me construire un chemin. J'ai pu le faire directement. Donc les choses arrivent de manière assez quand même intuitive.
Et on peut dire que finalement, à 27 ans, vous avez grosso modo 17 ans d'expérience, mais de votre expérience d'autodidacte.
Exactement, exactement. Et ça aussi, je trouve que c'est fondamental dans la manière de défendre les gens avec qui je tourne, parce que très tôt, en faisant des films comme ça avec les gens qui m'entouraient, mes voisins, mes amis, etc., j'ai vu que si le cinéma était plus important que la vie, moi je perdais quelque chose. Dans mon travail, hein, on se comprend, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et j'ai un bon exemple pour ça, Pedro Costa, qui est un réalisateur portugais que moi j'admire beaucoup. Un jour, il a eu du fric pour faire un film. Il a tourné dans un quartier, justement, un peu comme celui dans lequel j'habite. Bon, il a de l'argent, il y a des lumières, il y a des camions d'électricité, etc. Mais il est dans un lieu où il n'y a pas d'électricité. Mais lui, il arrive avec de l'électricité. Il a une fille très bavarde avec qui il veut tourner et qui devait être son actrice principale. Mais elle devient presque muette, quoi, pendant ce tournage. Et pendant le tournage, il raconte qu'il s'est rendu compte qu'il se passait plus de choses derrière la caméra que devant. Donc, il a rejeté cette industrie-là du cinéma de manière beaucoup plus radicale que moi. Et il est parti tourner avec une petite caméra Panasonic numérique. Et il arrive quand même à rendre leur beauté à ces gens, à les sublimer, parce que c'est aussi ça qui est important. Il filme l'âpreté, mais tout en sublimant ces gens-là qui trouvent beau et il leur rend leur beauté, leur dignité surtout, mais sans une équipe de 46 personnes. Pour moi, si on est plus de 4 sur le tournage, moi, ça m'emmerde. Qu'il y ait des types qui soient là juste pour faire le café ou amener, je sais pas, des madeleines à l'acteur principal, ça m'emmerde parce que pour moi, ils n'ont rien à faire là. Je veux dire, les madeleines, je peux aller les chercher moi. Le café, je peux aussi le faire moi ou un autre ami. Il n'y a pas de ça, quoi. Il n'y a pas de... On n'a pas besoin de cette hiérarchie-là. On n'a pas besoin de ce système de production-là. Si, toutefois, on veut toucher à cette vérité-là, parce qu'après, il ne faut pas non plus commencer à cracher sur tout ce qui existe, parce que moi, je suis conscient, il y a des cinémas et des genres différents. Et là, je suis obligé de dire cette phrase hein, que j'adore, c'est qu'on ne peut pas reprocher à un match de rugby de ne pas être un match de foot. Donc, moi, je laisse à ceux qui veulent faire un certain cinéma le soin de le faire selon leurs propres mœurs et leurs propres méthodes. Moi, tout simplement, je défends l'idée que si on fait les choses avec amour et qu'on veut toucher une certaine vérité, on ne peut pas laisser le cinéma être plus important dans ce rapport de force, hein, qui est un tournage, être plus important que la réalité qu'on filme. Donc la vie, on doit lui laisser un espace pour que tout simplement des choses puissent arriver.
Mano, aquele que enconche, aquele um que enconche, vale para tudo que ele semelha ali mesmo.
Conviver sozinho não, não tem muita piada.
Como tem grande problema na vida.
Calma, eu estou seguro.
Basile Dacunha, petite pause parce que j'ai une surprise pour vous dans la tête à l'envers. On vient en principe trouver nos invités avec un petit cadeau de nos archives. On écoute ?
En illustrant les contes napolitains de Boccace, ceux du Décaméron, Pier Paolo Pasolini a retrouvé la veine de ses premiers films, Acatone et Mamma Roma notamment. Lors d'un passage à Paris où il a reçu le prix Raoul Lévy, Pasolini, qui a achevé le tournage en Angleterre des contes de Canterbury de Chaucer, a accordé une interview à Jacques Duchâteau.
Pier Paolo Pasolini, est-ce que vous vous attendiez au succès du Décaméron, qui est un succès mondial?
On ne sait jamais dire quoi on prouve pour un succès. C'est une chose très jolie, mais qui n'a pas de véritable importance dans la vie d'un homme.
Comment expliquez-vous le succès du Décaméron?
En Italie, je l'explique peut-être pour des choses, comme ils disent, audaci. Audace, qui le public italien n'a pas l'habitude de choses comme ça. Et après, pour la joie de vivre, qui ont le personnage du film. En France, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que le cinéma vous a apporté ce que vous espériez qu'il vous apporterait lorsque vous vous êtes lancé dans la mise en scène?
Il m'apportait plus et moins.
C'est-à-dire?
Plus de succès, de célébrités, des choses comme ça.
Et moins?
Et moins de satisfaction personnelle.
Comme auteur?
Comme auteur, oui.
Basile Dacunha, quand vous écoutez cette voix que vous connaissiez?
Évidemment. Moi, je suis un grand admirateur de son travail. C'est un cinéma qui m'a beaucoup plus qu'inspiré. C'est un cinéma qui donne du courage. Parce que c'est un cinéma qui prend des risques. Et avant, on parlait d'une émotion, d'une vérité qu'on cherche parfois dans le cinéma. C'est une vérité que lui, il a su aller chercher. Et là, c'est très important de dire que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec cette espèce de cinéma du réel où on ferait une observation presque chirurgicale d'un fait divers ou d'une réalité. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une vérité. Et c'est un cinéma, justement, celui de Pasolini. C'est un cinéma qui est constamment dans le risque, qui est constamment en danger, qui cherche constamment une vérité. Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours dans le risque, ce cinéma ? Parce que c'est un cinéma de recherche. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Après, chaque réalisateur, il va vous servir son baratin et ses codes de lecture à lui. Moi, j'appelle ça un cinéma de recherche. Pourquoi ? Parce que on n'est pas dans l'exécution d'un scénario bien ficelé qui serait cette démonstration de force dont on parlait avant. On est dans une recherche. Il y a des choses qui se passent pendant qu'on fabrique les images. Il y a des vraies émotions, il y a des vrais visages, il y a des vraies situations. Là, on parle quand même d'un cinéma d'après-guerre. On a quitté les décors d'intérieur, les studios. On est avec des gens qui sont les gueux, les minorités. Moi, je vois un culte aux minorités, comme lui certainement et comme plein d'autres. Pourquoi ? Parce que justement, c'est à eux qu'on a le devoir de rendre une dignité. Et surtout, c'est un cinéma qui dépasse complètement des choses dans lesquelles on est tombé dans les années 80, 90, encore aujourd'hui, qui est une sorte de cinéma social presque complaisant, condescendant. C'est encore pire que le cinéma fasciste, quoi, être complaisant. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus dures à supporter, quoi, quand on appartient à ces minorités-là. La complaisance, c'est horrible. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est juste quelqu'un qui a su se mettre en danger quand il faisait des films. Donc, c'est un type courageux que je respecte, comme Pedro Costa et comme surtout Miguel Gomez, qui a réalisé ce film Tabou, incroyable, qui va sortir en janvier. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui iront le voir, parce que c'est tellement rare, des films comme ça, c'est précieux, quoi, à notre époque, des œuvres comme la sienne. Après, Pasolini, moi, forcément, hein, c'est vraiment des gens qui donnent du courage aux jeunes réalisateurs, quoi, parce qu'ils ont osé ouvrir des portes. Et nous, on n'a plus qu'à suivre le chemin et trouver le nôtre, quoi, mais tout en nous alignant ou en nous inspirant de certains trucs qu'ils ont réussi à débloquer.
Tout à l'heure, quand on l'écoutait et qu'il parlait de sa façon de concevoir le succès, l'audace et puis de la joie de vivre qu'il voit dans ses films qui sont peut-être une clé de son succès, justement, je vous voyais sourire parce que justement, ça résonne totalement avec tout ce que vous me dites depuis qu'on a ouvert ce micro.
Ben, pourquoi moi ça me parle ? Moi, je sens un lien, quoi, avec un type comme ça, en toute modestie, hein, parce qu'on parle d'un maître du cinéma comme les autres que j'ai pu citer. Mais moi, je sens un artisan qui a de l'amour, quoi, pour les gens avec qui il travaille. Et je sens ça à très peu d'endroits, dans très peu de productions cinématographiques. Moi, c'est rare, en fait, pour vous dire la vérité, c'est rare que je sente ça. C'est aussi pour ça que c'est important pour les gens qui font du cinéma comme nous on le fait, parce qu'on se sent moins seul, on sent qu'il y a d'autres gens qui ont exploré ces choses-là et qui sont plus arrivés quelque part, ils ont réussi à dire quelque chose, à révéler une certaine poésie à un endroit où personne ne pouvait croire qu'il y en avait. Donc voir des gens qui ont été jusqu'au bout dans des endroits pareils, ça permet aussi de conserver sa foi dans ces choses-là.
Et quand je vous parle de Pasolini, vous vous souvenez, Basile d'Acugna, la première fois, les premières images, la première fois que vous avez senti cette parenté et cette admiration viscérale, j'ai envie de dire, avec ce réalisateur.
Bah, je me rappelle d'Acatone. Acatone, pour moi, c'est une sorte de film parfait, quoi. Des fois, on parle comme ça, les gens, ils aiment bien, voilà, ça, c'est le meilleur film que j'ai déjà vu. Moi, Acatone, j'ai ce sentiment-là. C'est un film dans lequel je me retrouve complètement, en tout cas. Je sens dans chaque image, dans chaque scène, je me retrouve et je retrouve voilà, cet amour qu'il a. Bon, après, lui, c'est très particulier, hein, parce qu'il était homosexuel, il était aussi amoureux des gens qui filmaient beaucoup plus que moi et d'une autre manière. Il avait un autre lien aussi aux gens avec qui il travaillait. Voilà, et pour parler de Pasolini, il faudrait parler d'énormément de choses. C'est un peu particulier de l'aborder comme ça, et quel est mon lien à lui, etc. Bref, moi, ce que je sais, en tout cas, par rapport à ce qu'il a pu réaliser, c'est que cet amour-là, je le sens. Et que c'est des films qui m'ont habité. Comme les premiers films de Fellini aussi, enfin, toute cette génération d'après-guerre dans le cinéma italien, du néo-réalisme, qui après, en plus, s'est transformé dans un cinéma beaucoup plus onirique. Et j'ai trouvé ça aussi très très beau de voir cette transformation, pas seulement chez Fellini qui a simplement accompagné aussi le destin des gens qui filmaient, hein, qui ont fini par appartenir à un autre milieu. Mais je pense que, justement, Pasolini, il a réussi à aller chercher des choses dans la poésie, dans l'absurde. Et je trouve très beau, quoi, d'offrir aussi ça aux gens qui filment. C'est absurde, cette poésie, on la retrouve aussi, par exemple, chez Beckett. Par exemple, moi je pense que ce soit Costa ou Miguel Gomez, c'est quand même des gens qui admirent, par exemple, un cinéma des années 50, hollywoodien, Strass, Payet et tutti quanti. C'est quand même un cinéma très particulier. Et c'est très étonnant que ce soit ces réalisateurs-là qui vont filmer de nouveau des minorités. Voilà, c'est très réducteur de dire ça. Et puis, j'ai pas envie d'être à ce point-là réducteur. Mais ils arrivent à rendre leur beauté à des gens à qui on donne pas assez. Ils arrivent à leur rendre cette dignité-là.
Alors justement, vous parlez de ces lieux, de cette minorité. Vous-même, Basile Dacunha, qui êtes à la fois suisse et à la fois portugais, c'est donc à Lisbonne que vous avez trouvé votre espace-temps, le lieu où vous vous sentez vivre le mieux, votre chez-vous. Alors parlez-moi de ce quartier et de comment vous l'avez rencontré.
Bon, j'avais fait un film en Suisse avec... Bon, un mélange d'ouvriers et puis un ou deux acteurs. J'avais un acteur roumain génial, Dorin Dragos. Je fais une petite bifurcation, un petit détour, hein, qui était un acteur roumain. Le type était chimiste en Roumanie. Il a travaillé pour le théâtre là-bas, donc il jouait toute l'année, hein, parce que le théâtre appartient à l'État, etc. Bref, il vient pour une pièce ici et il apprend le français phonétiquement pour la pièce. Il rencontre une interprète avec un manteau de fourrure, enfin une dame incroyable qui devient une sorte de manager, etc. Moi, je rencontre ce gars et je le trouvais incroyable parce qu'il a un visage incroyable et parce que je sentais que c'était un acteur, donc qui pouvait croire à mon projet, voilà, de
ce
manière
film, c'était à côté.
À côté, voilà.
Alors, on va voir un coup ?
Non, moi, je rentre, ma femme.
Mais fais des histoires, elle n'aime pas quand je rentre trop tard. Oh,
j'ai des choses à faire.
Quel jour?
Des choses?
Ça, j'ai compris, vieux comble.
Je sentais qu'il pouvait y croire. Mais je trouvais que, moi je pense qu'en Roumanie, il ne doit pas être aussi bon, quoi, le gars. Mais moi je me disais, bon, comme il ne parle pas bien français, ça va être très intéressant. Donc le gars, il apprend tout le texte, etc. Et tout. Et quand il commence à tourner, moi je trouve qu'il en fait des tonnes. Et ce que je trouve intéressant, c'était de changer constamment les dialogues, de le mettre dans la panade pour qu'il ne puisse pas s'appuyer sur ses béquilles. Et du coup, il y a un truc vachement intéressant qui s'est produit, c'est qu'il était constamment dans la difficulté. Et là, voilà, on a commencé à tourner comme ça. Avec ses ouvriers, on tournait toujours dans des situations un peu particulières. Par exemple, on avait une scène dans une camionnette où lui, justement, qui joue un ouvrier, qui tombe amoureux d'une voisine qu'il n'a jamais rencontrée, dont il entend la voix, demande à ses collègues où est-ce qu'il peut acheter des fleurs. Et il y a un Portugais que j'avais rencontré au Paqui à 8h du mat un jour parce qu'il manquait un acteur pour un autre tournage. Le gars, je le vois en train de boire un pichet de vin à 8h. Je me suis dit, ce gars-là, il doit rien faire de sa journée. Je vais vers lui, je lui dis, est-ce que tu as envie de faire un film de chevalier? Parce que ce jour-là, je devais faire un film de chevalier. Il me dit oui. Alors on part, on fait un film et je me rends compte que ce gars est un génie. C'est un génie, c'est un Portugais qui sait ni parler très bien portugais ni très bien français parce qu'il a le cul entre deux chaises et il fabrique de la poésie constamment. On est dans cette camionnette, on tourne à la route de Genève, à Lausanne, histoire d'alimenter un peu les conversations sur cette scène. On a 5-6 bonhommes, route de Genève, des filles, voilà, dehors, etc. On tourne et voilà, je donne des pistes qui sont des intentions de jeu. Voilà, toi tu vas parler de ci, tu vas parler de ça, etc. Et donc le Roumain, là, il commence à essayer de demander son histoire de voilà, où est-ce qu'il peut trouver des fleurs et tout ça. Et le Portugais, il lui rentre dans l'art, parce que j'avais demandé à ce Portugais de lui rentrer dans l'art. Ce qui était vachement intéressant, c'était que le Roumain, il ne s'y attendait pas, parce qu'il avait prévu de déclamer son texte, voilà, comme il a l'habitude de le faire. Et moi, je lui mettais des bâtons dans les roues. Et ce qui était vachement intéressant, c'était de voir ses réactions, parce que d'un coup, il devenait fragile, il devenait humain. C'était plus un acteur qui jouait, qui me faisait une démonstration de toute sa force. Bref, j'en arrive au fait. Et là, le Portugais, ce qu'il me dit, parce que, ouais, lui dit, ouais, tu sais pas où acheter des fleurs, je sais pas quoi. Le Roumain, il lui dit, ouais, mais t'as jamais acheté des fleurs pour ta copine. Et là, il lui répond, il a pas besoin de fleurs, elle en a déjà une très belle, c'est moi-même. Moi, à ce moment-là, quand je vois qu'un acteur dit une chose pareille, qui, moi, je trouve ça tellement beau, je me dis, voilà pourquoi mes dialogues, c'est rien. C'est rien à côté de ce qui peut sortir et advenir dans ces moments-là. Bref, on fait ce film qui marche plutôt bien. On va à Locarno. J'arrive dans ce festival, je connais rien au festival, au monde du cinéma, j'y connais rien du tout. Et franchement, après y avoir été, j'avais pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je me suis dit, putain, si c'est ça le cinéma, non merci. Donc j'avais besoin un peu d'aller faire des films, tout simplement, hein, histoire de pas rester sur cette mauvaise impression. Parce qu'un festival, c'est justement un milieu, c'est voilà, des rapports de force.
Des codes.
Des codes, surtout des codes, évidemment des codes. À plus forte raison, en Suisse, qui est quand même un pays où les codes sociaux ont une importance énorme. Et bon, voilà, j'en ai juste marre qu'on me prenne pour, je sais pas moi, le videur du restaurant, là, ou je sais pas quoi, ou du bar, etc. Enfin, ça me fatiguait tout simplement ces rapports entre les gens. Je me suis dit, bon, je vais aller refaire un film au Portugal. Donc j'ai appelé mon pote Julien Rouillet, qui est producteur, réalisateur, avec qui on a monté une petite boîte, Terra, etc. Et puis il me donne un peu de sous pour aller faire un film, donc je pars là-bas faire un film avec rien, hein, genre avec 1000 balles. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit truc, histoire de travailler, quoi, au lieu de rester sur cette mauvaise impression. Et au bout de 2 jours, voilà, je cherchais, hein, je savais pas très très bien ce que j'allais chercher, je rencontre une fille, et moi je suis tombé amoureux de cette fille, on se met ensemble, etc. Donc je reviens en Suisse, je prends mes affaires, je pars là-bas, on se retrouve chez une copine à elle, etc. Bon, à un moment donné, il fallait partir, donc je trouve un appart et finalement, cet appart, ça joue pas. Le jour où je dois déménager, le gars, je pense qu'il a eu une meilleure offre. Donc, il me téléphone, il me dit que ça marche pas. J'avais 1 heure pour trouver un truc. Je prends le journal et je vois un truc pas cher dans un quartier que je connais pas. Je prends. J'ai pris, hein, j'ai téléphoné, j'ai dit je prends. Il dit, vous voulez pas voir? Non, ça va, je prends. J'arrive là-bas et tout à coup, je me dis, putain, ça m'a l'air pas mal cet endroit. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il y a plein de gens dans la rue, les voisins m'ont l'air sympas. Pendant que j'essaie de monter ces meubles Ikea qu'on n'arrive jamais à monter, parce que j'avais une nouvelle table Ikea à monter et que ça marchait pas, évidemment, je m'étais gouré. Bref, j'ai à peu près la moitié de l'étage qui vient pour m'aider, pour essayer de comprendre le problème. Tout le monde était devenu ingénieur en table Ikea, etc. Donc c'était en 5 minutes, je me suis dit, voilà, ça c'est un endroit, on est à la maison, quoi. Et c'est comme ça, en fait, bêtement, que je suis arrivé dans ce quartier. Pas pour faire des films, pour y vivre. Je suis resté là. Je me suis fait énormément d'amis. Et c'est simplement comme ça, quoi. C'est une fille et voilà, un meuble Ikea et puis un quartier, un appartement que je n'ai pas réussi à avoir. Et voilà.
Et une sorte de minorité parce que finalement, vous êtes un des rares blancs à vivre dans ce quartier capverdien. Et c'est un quartier que même les Lisboètes, on les appelle comme ça, je crois. Hein. Les Lisboètes ne fréquentent pas.
Non, mais ça, c'est aussi lié au fait que ce soit une très grande ville. C'est pas Lausanne. Lisbonne, c'est quand même une très, très grande ville. Et les très, très grandes villes, c'est plein de petits villages, en fait. Et après, ces choses liées aux classes sociales, aux minorités, aux stigmatisés, elles sont beaucoup plus frappantes là-bas. D'autant plus que le Portugal, c'est quand même particulier. Il y a eu les colonies, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas encore résolues et desquelles on n'a pas encore parlé. Hein. Bon, je dis pas qu'en France, ils ont résolu la question, mais je pense qu'au Portugal, c'est des tabous, il y en a beaucoup plus et c'est très différent. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'en venant de la Suisse, moi, j'ai quand même cette chance-là, c'est que j'ai grandi dans une mixité que je ne remarque que si on me fait remarquer qu'elle existe, parce que au fond, nous, on s'en fout, quoi. Justement, l'avenir, au Portugal, je pense que c'est les enfants, parce qu'ils vont grandir dans cette mixité et ils s'en foutront de tout ça. Mais moi, en tout cas, quand j'arrive là-bas, la différence qu'il y a entre moi et les Portugais blancs, hein, c'est juste ça. C'est juste que moi, j'ai vécu un autre truc ailleurs et que je m'en fous, quoi, de ces trucs-là. Et eux, pas, parce qu'ils n'en sont pas encore là, tout simplement. Donc, je pense que après, les gens, ils te rendent aussi ce que toi, tu leur donnes. Donc, si toi, t'es ni effrayé, ni fasciné bêtement, je pense que si t'as un rapport simplement normal, quoi, qu'un type bien est un type bien, un con est un con, et puis que t'arrives à être honnête dans tes rapports avec les gens te le rendent. Donc, très rapidement, les choses elles, se passent de manière naturelle. C'est seulement, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce qu'on est en train de se dire là, de ce truc blanc, black, machin, quartier compliqué, etc. Moi, je m'en suis rendu compte que dernièrement, enfin, beaucoup plus tard. Parce qu'au début, je ne m'étais même pas vraiment rendu compte de tout ça. Parce qu'ici, en Suisse, à Lausanne en tout cas, avant que certaines choses n'arrivent, que l'UDC essaie de changer sa communication sociale et qu'ils fassent passer toutes ces saloperies de lois et qu'ils investissent les médias de cette façon-là, avant que le 20 minutes existe, avant que les journaux qui font des faits divers leur fonds de commerce. Avant tout ça, nous, on vivait très bien tous ensemble. Et moi, du coup, quand j'arrive là-bas, ben, je continue à vivre comme j'ai tout le temps vécu, c'est-à-dire bien avec tout le monde. Et que, voilà, si un type bien est un type bien, tout baigne. Si c'est un con, c'est un con. Et puis voilà, il n'y a pas de questions liées à l'origine ethnique ou sociale.
Mesmo assim, já, capta a situação. Prova tudo na hora que está fechado no prisão. Talibã, já, nigga M, sexy lover, já, P-Mafia, Alex. Já, rapaz, que levaram pouco tempo também. Coisa assim, rapaz, get stress.
E por que Basile da Cunha a trouver son espace-temps plutôt à Lisbonne qu'ici à Lausanne?
Alors, ça, on en parlait un petit peu avant. La Suisse, c'est quand même un pays très particulier dans le sens où, surtout, en tout cas, moi, la Suisse, hein, mon bassin lémanique, là, je le trouve très structuré par, dans son espace-temps, par ce lien au pouvoir d'achat, à la prestation de services, à la consommation. On bosse énormément, les magasins ferment très tôt, on court, et voilà, la semaine les gens bossent, et le week-end ils vont s'acheter des habits chez Zara pour sortir, etc. Les iPhones, les marques, une sorte d'omniprésence de la consommation et de cette course vers ce pouvoir d'achat qui est quand même fondamentalement une des vertus qu'on ne cesse de nous vendre ici. Et qui, moi, en tout cas, me touche pas du tout, qui m'est complètement étrangère, parce que pour moi, l'importance que les gens donnent à leur téléphone en ce moment, pour moi, c'est aussi absurde que si on me disait qu'un tire-bouchon, demain, est un produit de consommation très important, et que moi, je comprends pas ce que les gens font avec leur téléphone, je comprends pas comment dans le train, maintenant, il y a plus un type qui est foutu de lire un bouquin, quoi. Comment ça se fait que... Voilà. Moi, j'arrive là-bas, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de téléphone portable, iPhone, je ne sais pas quoi, il n'y a plus de iPad, il n'y a plus de publicité, de marque, de chaussures pointues, il n'y a plus tout ça, il y a juste la vie, les gens, et voilà, quoi. À un moment donné, je me dis, évidemment, c'est un peu archaïque hein, comme monde, et ça ne va pas durer.
Mais en fait, c'est aussi exactement l'espace-temps qui convient au réalisateur Basile da Cunha, et le long métrage que vous êtes en train de travailler s'appelle justement Après la nuit. Il se passe dans ce quartier, il est tourné pendant la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que dans cet espace-temps-là, la nuit est plus animée.
Bon, moi j'avoue, hein, j'ai un problème avec le matin. De toute façon, le matin, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je préfère la nuit. À partir de 7h, 8h, c'est comme les vampires, quoi. Tant qu'il y a le soleil, voilà, quoi. Je ne suis pas complètement à l'aise, j'aime beaucoup la nuit. Donc, déjà que c'est moi le patron hein, et que je peux me permettre de décider des horaires, je me suis dit, je vais faire un film de nuit. Plus sérieusement, pourquoi ce film se passe de nuit? C'est simplement parce que déjà, moi, j'adore la sensualité des lumières la nuit. Il y a une image beaucoup plus granuleuse, les jaunes sont très très beaux. Et les textures de peau me fascinent énormément. Donc déjà, il y a un désir comme ça, un peu sensoriel, d'aller vers ce genre d'image. Au-delà de ça, c'est surtout l'histoire que je voulais raconter. Donc déjà, il y a une sorte d'appétence ou un goût pour la nuit, que ce soit personnel ou dans ses goûts comme ça, visuels. Après,
C'est surtout l'histoire, quoi. Ça raconte l'histoire d'un type qui est un... On appelle ça les enfants de la Lune. Donc, après, moi, j'ai pas étudié le truc très sérieusement. Hein. Je sais que les enfants de la Lune, c'est juste des gens qui ont une maladie, qui ils peuvent pas être au soleil. Je crois qu'ils supportent pas les rayons UV. Ils vivent dans des sortes de scaphandres et tout ça. Bref. Bon, moi, j'ai juste pris le début, là, où je voulais raconter un truc sur un type qui peut pas vivre la journée. Je voyais déjà qu'il est une sorte de tare, comme ça, physique. Une sorte de handicap physique. Je voulais déjà lui mettre des bâtons dans les roues avant même que l'histoire ne commence. Qu'il soit déjà étranger. Parce que c'est intéressant, ça, d'aller parler, d'aller regarder, vivre un truc avec un type qui est marginal dans la marge, quoi. Dans un quartier qui est déjà stigmatisé, puis on prend un type qui, dans le quartier, lui-même est stigmatisé, quoi. Qui porte des stigmates. Bon. Et ce gars-là, en fait, on se causait pas beaucoup. Je le connaissais pas très très bien et tout. Mais bon, j'avais fait un clip pour des rappeurs là-bas et tout. Et lui, il était rentré dans le clip à un moment donné et tout. Je me disais, putain, ce gars, il a un truc, quoi. J'aimerais bien. J'écris toute une histoire pour lui sans savoir vraiment s'il va accepter et tout. Un jour, je le vois, je dis, bon, comment, alors, est-ce qu'on fait un truc ensemble et tout? Ouais, ouais, pas de souci. Donc bon, je continue à écrire mon truc. Et j'ai développé donc une histoire où on suit un personnage qui sort de tôle, qui doit du fric et qui en plus a cette maladie qui le rend étrange. Et voilà, moi je me rappelle de ce livre L'étranger de Camus que j'avais lu à l'école et qui m'avait beaucoup frappé parce que le type n'était jamais jugé pour ce qu'il avait pu faire ou ne pas faire. Il était jugé pour son étrangeté, quoi. Moi, c'est un truc, ça m'avait beaucoup frappé, ce bouquin, quoi. Ça m'avait beaucoup touché, parce que je trouve que c'est souvent le cas, et ça me... J'étais très ému, quoi, par cette histoire, et j'avais envie de raconter une histoire. Bon, après, à la fin, on arrive à un truc très, 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 très loin de ça, hein, mais parce que les histoires se transforment et sont sujettes à la réalité qu'on filme, quoi. Mais le point de départ, c'était quand même ça. Donc, on commence à... J'ai écrit un truc où il y a un type qui vit sur les toits avec une machette, qui vend du shit, qui doit de l'argent, et le gang, la famille du quartier, comme ça, se fait voler un truc. On ne saura jamais vraiment très bien ce que c'est ce truc, parce que tout est très très flou dans ce film. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, les soupçons vont se diriger vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il est étrange, parce qu'il est différent. Et c'est de ça que je voulais parler. Donc, on a beaucoup exploré la nuit, le monde de la nuit. Ces lumières, ces lampadaires, on a éclairé beaucoup avec une lampe à huile. C'est très beau, c'est une lampe à huile. C'est des variations de lumière incroyables, c'est du feu, quoi. C'est beau, avec des briquets, avec des bougies, des choses comme ça. C'est très, très, très beau. C'est très, très beau.
Et dites-moi, Basile Dacunha... Il y a de fortes chances, allez, on peut peut-être dire ça comme ça, que ce film soit sélectionné à la quinzaine de Cannes.
Ah, je peux pas me prononcer là-dessus, ça. J'espère sincèrement, parce que c'est un festival qui a soutenu notre cinéma, qui est pas un cinéma facile à soutenir, faut quand même le dire.
Donc deux courts-métrages de voilà. Basile Dacunha. Et de son équipe, hein, on dirait ça comme ça, ont été sélectionnés déjà à la quinzaine de Cannes. Et ouais. Si tout va bien, on doit croiser les doigts.
Exactement. J'espère en tout cas pour pouvoir le présenter là-bas. J'espère, je ne sais pas. Après, ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent plus tellement. Mais j'espère surtout parce que c'est un endroit, non seulement ça nous permet d'exister, ça donne évidemment une légitimité au travail qu'on fait, qui est un travail qu'on fait en marge, de nouveau. Donc on a énormément besoin de ça. Déjà qu'on fait les choses sans argent, qu'on fait les choses de manière assez particulière. Nous, les artisans qui faisons ça, pour nous, c'est important d'avoir quand même, à un moment donné, voilà, un certain soutien. Et justement, dans les courts-métrages qu'on a produits, ils nous ont soutenus. Et puis c'était aussi très important parce qu'on passe à côté de beaucoup de festivals à cause de la durée de nos films, notamment à cause du fait que justement ce n'est pas des exercices de style. Le format du court-métrage, c'est assez intéressant, c'est quand même un format qui est souvent imaginé comme une carte de visite pour les réalisateurs afin qu'il puisse présenter des choses au producteur. C'est une erreur très grave et c'est ce qui fait que je m'emmerde la plupart du temps quand je suis dans un festival de court-métrage, c'est que beaucoup de ce que je vois, et je pense pas que c'est à l'image de ce qui se produit, parce que moi je pense que moi je vois énormément de bons courts-métrages en dehors des festivals, mais je trouve dommage que souvent les festivals jouent ce jeu-là. Et je pense qu'ils devraient soutenir des prises de risques, des gens qui inventent d'autres vocabulaires, des gens qui proposent une autre grammaire cinématographique. Parce que si on ne le fait pas dans des courts-métrages, comment on va le faire dans le long ? C'est-à-dire le long, c'est déjà un moment où il y a du fric, il y a une pression. Encore que, hein, on peut le faire d'une autre manière. Hein. Moi, je propose de le faire d'une autre manière. Mais je veux dire, pour les gens qui sont dans le système de production plus classique, s'ils ne peuvent pas, dans le court-métrage, avoir des portes de sortie quand ils expérimentent des choses, voilà, où est-ce qu'ils vont pouvoir exister, ces gens-là ? Et trop souvent dans les festivals, ce qui se passe, c'est qu'on ne soutient pas assez les cinémas qui sont plus risqués. Et justement, moi, la quinzaine, ce que j'admire... chez eux, au-delà de leur histoire, hein, parce que c'est quand même incroyable, les gens qui sont passés par là. Moi, ce que j'ai pu voir de mon vivant, ce que j'ai pu partager avec eux, c'est quand même des expériences cinématographiques très particulières, où ils ont pris des risques. Et moi, je me rappelle de la sélection d'Edouard Weintraub, je la trouvais très belle. Je trouvais que tous les films que j'ai vus racontaient quelque chose, proposaient... Un regard nouveau sur un sujet, quoi. Et c'est tellement nécessaire pour nous d'avoir un espace pour pouvoir montrer ce qu'on fait que voilà, quoi. Moi je trouve très important que cette section là existe, quoi.
Basile Dacunia, voilà, on a terminé, donc je vais vous tendre ce micro. Et puis, vous allez en faire exactement ce que vous voulez.
Si je peux en faire ce que je veux, je vais terminer avec une petite touche de poésie. Je voulais râler, mais je vais garder ça pour plus tard. Un peu de musique. C'est tonton Marcel qui joue de l'accordéon. On l'appelle le Bruce Lee du Cap-Vert. Le maître des arts martiaux du Cap-Vert. Avec Shibody, son comparse. Son bras, mon acteur principal. C'est ma partie préférée du film. Le personnage, il devient fou. Il vient d'aller chez le sorcier. Et pendant que tonton Marcel et Chibod continuent à jouer de la musique, on a trois supporters de foot. Ils discutent, ils râlent, comme d'habitude. Hein. Comment le match aurait dû se passer entre Sporting et Benfica. Sporting. Forti.
Basile Dacunia, surpris dans son studio grotte, dans l'effervescence de la dernière ligne droite du montage de son premier long métrage, Après la nuit, une toile à découvrir très bientôt sur les écrans et peut-être, souhaitons-le lui, déjà au programme de la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Vous pouvez télécharger ou réécouter cet entretien en tout temps sur notre site rts.ch/la-tête-à-l'envers. Réalisation Bruno Seriba, Marlène Métraillé au micro.
Samedi prochain, nous avons rendez-vous avec la locandiera Dominique Blanc, plus précisément au théâtre de Carouge, où l'actrice française campe l'aubergiste pétillante de Goldoni jusqu'au 2 février. La tête à l'envers est une émission produite par Laurence Froidevaux, une heure à partager avec un acteur de la vie culturelle tous les samedis.